Edgar Poe, Marginalia, la préface. En achetant mes livres, j'ai toujours eu soin de les prendre avec de grandes marges. Non pas que je tienne à la chose pour elle-même, quelque agréable que cela soit, mais j'y trouve cet avantage que je puis ainsi crayonner les pensées que me suggère ma lecture, mon adhésion à ce que dit l'auteur, ou mon dissentiment, ou encore de simples commentaires critiques. Quand mes notes sont trop longues pour tenir dans l'espace d'une marge, je les confie à une feuille de papier que je glisse entre les pages et que je fixe par de la gomme. Il se peut que tout cela ne soit qu'une manie, quelque chose de banal et inutile. Cependant, j'y prends plaisir, ce qui, quoi qu'en dise messieurs Mill, doublé de monsieur Bentham, est encore une sorte de profit. Les notes marginales ne sont pas des notes mnémotechniques et n'ont pas les défauts de ces dernières. Ce que je mets sur le papier, dit Bernardin Saint-Pierre, je le remets dans ma mémoire et par conséquent je l'oublie. Remarque parfaitement juste. Pour se débarrasser d'un souvenir, il n'y a qu'à le fixer par écrit. Mais de simples notes marginales, faites sans que l'on veuille se les rappeler, diffèrent par leur nature et leur but de ces notes commémoratives, ou plutôt n'ont pas de but du tout. C'est là ce qui fait leur prix. Elles valent également un peu mieux que les commentaires accidentels et passagers, que de purs cancans littéraires. Ceux-ci, le plus souvent, ne sont que des paroles dites pour parler, tandis qu'on crayonne les notes marginales parce que, tout en lisant, on tient à sauter de la tête une idée qui, quelque impertinente, quelque triviale, quelque niaise qu'elle soit, n'en est pas moins une idée et non pas une de ces conceptions embryonnaires attendant pour éclore certaines circonstances favorables. De plus, dans les notes marginales, nous nous parlons à nous-mêmes. Nous causons donc franchement, hardiment, avec originalité, abandon, sans fausse vanité, beaucoup à la façon de Jeremy Taylor, de Sir Thomas Browne, de Sir William Temple, de Burton, l'anatomiste, de Butler, le logicien, ou de quelques autres gens du vieux temps, trop pleins de leur sujet pour se préoccuper de leur style, qui, mis ainsi hors de cause, se trouve être un style admirable, un style modèle, d'allure tout à fait marginalienne. Le défaut de place est pour ces crayonnages plutôt un profit qu'un inconvénient. Nous sommes ainsi forcés, quelque diffuse que soit notre pensée, de rivaliser de concision avec Montesquieu ou Tacite. Or, de celui-ci, j'excepte la dernière partie de ses annales, ou même avec Carlyle. Je me suis laissé dire que l'imitation de ces derniers écrivains ne donne pas toujours un style affecté plein de solécisme. Je dis solécisme par pure obstination, parce que les grammairiens, qui doivent s'y connaître, insistent pour que je parle différemment. C'est que la grammaire n'est pas ce que les grammairiens pensent. Elle est simplement l'analyse de la langue et le résultat de cette analyse. Les solécismes ou la correction viennent donc de la valeur de celui qui analyse, suivant qu'il est un home took ou un cordbet. Mais revenons à nos moutons. Pendant une après-midi pluvieuse, il y a peu de temps, me trouvant trop distrait pour entreprendre un travail suivi, je cherchais à soulager mon ennui en prenant au hasard, parmi les volumes de ma bibliothèque peu considérable, il est vrai, mais assez variés et choisis, je crois, avec discernement. Peut-être avais-je la tête à l'envers, mais l'apparence pittoresque de mes crayonnages fixa mon attention et tous ces commentaires, se suivant à la débandade, me plurent. J'allais jusqu'à désirer qu'une autre main que la mienne eût ainsi maltraité mes livres, m'imaginant que, dans ce cas, j'aurais eu grand plaisir à les feuilleter. De là à penser que mes griffonnages pouvaient avoir quelque intérêt pour d'autres que moi, il n'y avait pas loin. La transition ainsi naturelle que même messieurs Liel Murchison ou Feather Stonehouse l'eussent apprécié et approuvé. La grande difficulté était d'enlever les notes des volumes, de séparer le contexte du texte, sans nuire à la clarté. Avec tous les secours possibles, les pages imprimées sous les yeux, mes commentaires rassemblaient déjà aux oracles de Dodone, ou à ceux de Lycophron Ténébrosus, ou encore aux exercices de l'élève de Quintilien, qui étaient nécessairement excellents quand le magistère ne pouvait les comprendre. Que deviendrait le contexte si on le transposait, si on le déplaçait? Ne lui arriverait-il pas d'être oversetzel, ni sans dessus-dessous, comme disent les Hollandais, pour transférer? Je me décidais enfin à avoir grande foi dans l'intelligence et l'imagination de mes lecteurs. Mais dans certains cas où la foi même n'aurait pas transporté la montagne, je ne trouvais non de plus sage que de refaire la note de telle façon qu'elle conserva au moins l'ombre de son sens originel. Quand le texte commenté était absolument nécessaire, je le citais. Quand le titre du livre examiné était indispensable, je le donnais. Bref, comme un héros de roman dans l'embarras, je résolus de me laisser guider par les événements à défaut de règles plus satisfaisantes. Quant aux nombreuses opinions exprimées dans le fatras qui suit, quant à dire si le tout m'agrée encore ou si la partie me déplaît aujourd'hui, quant à la possibilité que j'ai jusqu'à un certain point changé d'avis et l'impossibilité que j'en ai changé souvent, ce sont là des choses sur lesquelles je me tairai, car là-dessus on ne peut rien écrire de prudent. Il sera à propos toutefois de se souvenir qu'un calembour n'est bon qu'autant qu'il est affreux, et que le sens essentiel de la note marginale est le non-sens. Note 1. Les Romains adoraient leurs enseignes guerrières, les aigles. Notre enseigne à nous, Américains, n'est que le dixième d'un aigle, $1. Mais nous égalisons les choses en l'adorant d'une adoration décuple. Note 2. Combien de critiques américains oublient, hélas, le conseil fort sensé de M. Timon, que le ministre de l'Instruction publique lui-même doit savoir parler français. Note 3. Il y a certains faits dans le monde matériel qui ont de merveilleuses analogies avec les phénomènes de la pensée. C'est ainsi que gagne quelques semblants de vérité cette affirmation des rhétoriciens, fausse au fond, qu'une métaphore ou une similitude peut servir aussi bien à confirmer un avis qu'à embellir une description. Le principe de la force d'inertie, par exemple, d'après lequel le moment nécessaire pour vaincre une résistance est proportionnel à celui conséquent à cette victoire, semble être identique en physique et en métaphysique. Mais il n'est pas plus sûr de croire dans l'une de ces consciences qu'un corps considérable est mu plus difficilement qu'un moindre, et que la force vive résultante est proportionnelle à cette difficulté, qu'il ne l'est dans l'autre que des négligences d'envergure plus vastes, plus fortes, plus constantes, plus durables dans leurs élans que des intelligences inférieures, sont les plus lentes à s'ébranler, les plus embarrassées, les plus résistantes dans les premiers pas de leur avance. Note 4. On pourrait imaginer une philosophie très poétique et suggérant de sérieuses pensées, quoique peut-être peu soutenable, en supposant que les vertueux vivront après la mort et que les pervers seront anéantis. Et le danger de cet anéantissement proportionnel à la culpabilité de chacun pourrait être pressenti pendant le sommeil et quelquefois plus clairement encore pendant l'évanouissement. Le manque de songe dans le sommeil marquerait le degré où l'âme serait sujette à la destruction finale. De même, s'endormir et se réveiller sans conscience du laps de temps écoulé indiquerait que l'âme est condamnée à mourir avec le corps. Par contre, quand, à la sortie d'une syncope, on retrouverait des souvenirs de rêve, et cela arrive quelquefois, l'âme serait assurée de se trouver en condition d'échapper à l'anéantissement. La félicité ou le malheur de notre existence future étant ainsi prédit par la fréquence de nos visions. Note 5. Paulus Jovius, qui vivait à ces époques obscures où des plumes à pointe de diamant étaient inconnues, jugea bien cependant de dire de son style une plume d'oie, aliquando ferreus, aliquando aureus, tantôt en fer, tantôt en or, entendant faire simplement une figure de rhétorique. Et parmi les auteurs modernes qui en réalité ne se servent pour écrire que de plumes d'acier ou d'or, il en est sans doute qui, pour la postérité, les qualifieront d'ancérines, et cela encore par figure de rhétorique. Note 6. Sans doute on trouvera mon association d'idées singulières, mais je ne puis jamais assister à un opéra italien, à ce va-et-vient de gens gesticulant et chantant, sans m'imaginer que je suis à Athènes et que j'entends la tragédie de Sophocle, où le poète introduisit un cœur de dindon pour pleurer la mort de Mélaire. Je remarque à ce propos qu'il n'est pas une oie au monde qui, en fait de sagacité, ne se sentit blessé d'être comparé à un dindon. Note 7. Si j'étais amené à définir très brièvement le mot « art », je l'appellerais la reproduction de ce que les sens aperçoivent dans la nature à travers le voile de l'âme. L'imitation de la nature, quelque exacte qu'elle soit, n'autorise personne à prendre le titre sacré d'artiste. Denner n'était pas un artiste. Les grappes de Zeuxis n'avaient rien d'artistique, si ce n'est un vol d'oiseau, et même le rideau de Paphassus ne parvenait pas à cacher ce qu'il manquait de génie à ce peintre. J'ai parlé du voile de l'âme. Quelque chose de pareil nous paraît indispensable en art. Nous pouvons toujours doubler la beauté d'un paysage en le regardant les yeux à demi clos. Les sens qu'elles perçoivent quelquefois trop peu. Hein? Ils perçoivent toujours trop. Note 8. Voir distinctement le mécanisme d'une œuvre d'art, ses rouages, ses pignons est sans contredit un plaisir par lui-même, mais un plaisir que l'on ne peut goûter qu'autant que l'on renonce à jouir des effets voulus par l'artiste. En fait, il arrive souvent que considérer analytiquement les œuvres d'art revient à les considérer par ces miroirs du temple de Smyrne qui réfléchissaient déformés les plus belles images. Note 9. L'artiste appartient à son œuvre et non pas l'œuvre à l'artiste. Novalis. 9 fois sur 10, c'est perdre son temps que de chercher à tirer quelque sens d'une maxime allemande, ou plutôt, à vrai dire, on peut de chacune extorquer le sens que l'on veut. Si dans l'aphorisme que je cite plus haut, on entend dire que l'artiste est l'esclave de son sujet et doit y borner ses pensées, je n'ai aucune foi dans une affirmation qui me paraît partir d'un esprit extrêmement prosaïque. Dans les mains du véritable artiste, le sujet mis en œuvre n'est qu'une masse de matière, de laquelle le vouloir ou l'adresse de l'ouvrier peut faire quoi que ce soit. C'est la matière qui est l'esclave de l'artiste, elle lui appartient. Le génie, sans doute, s'est manifesté en la choisissant. Elle n'a besoin d'être ni fine ni grossière abstraitement, mais précisément aussi fine ou aussi grossière, aussi plastique ou aussi rigide que cela est nécessaire pour l'objet à exécuter, ou plus exactement pour l'impression à provoquer. Il y a cependant des artistes qui ne rêvent que finesse et qui produisent de même. Ce qu'ils font est en général excessivement ténu et très fragile. Note 10. Nos bas bleus se multiplient rapidement. Il conviendrait de les décrier tout au moins. N'y a-t-il pas de critique douée d'assez d'énergie pour en exécuter une demi-douzaine in terrorem? Il faudrait naturellement qu'on se servît pour cela d'un lacet de soie, comme on en use en Espagne avec les grandes sangs bleus, des sangre azula. Note 11. Il n'appartient pas à tout le monde d'assembler convenablement les parties d'une belle chose. Et cependant, une fois l'œuvre faite, toutes les dixièmes personnes que vous rencontrerez seront capables de la concevoir et de l'apprécier. Nous pouvons admettre qu'il faille moins de talent pour composer une courte nouvelle qu'un roman de dimensions ordinaires. Le roman demande certainement davantage de ce qu'on appelle l'effet soutenu, mais c'est là simplement de la persévérance, vertu qui n'a que de lointaines relations avec le talent. D'autre part, l'unité d'effet, qualité rarement appréciée et peu comprise par les esprits ordinaires, difficile à atteindre pour ceux qui la conçoivent, est indispensable dans la nouvelle, non dans le roman. Ce dernier, s'il est admiré, l'est sur des passages détachés, sans rapport avec le tout, sans rapport avec le plan général, qui, s'il existe, aura peu préoccupé l'écrivain et ne saurait être perçu du lecteur à première vue à cause de la durée de la narration. Note 13. Un argument solide en faveur du christianisme est celui-ci. Les fautes contre la charité sont les seules pour lesquelles un homme à son lit de mort peut être amené à se savoir et à se sentir coupable. Note 15. Pour bien converser, il faut le tact froid du talent. Pour bien parler, l'abandon fervent du génie. Cependant, des hommes de grand génie parlent bien en une occasion et mal en une autre. Bien quand ils ont tout le temps, toute carrière et des auditeurs sympathiques, mal quand ils craignent d'être interrompus et sont ennuyés de ne pouvoir épuiser leur sujet dans un seul discours. Le génie partiel brille par éclat, il est fragmentaire. Le vrai génie a horreur de l'incomplet, de l'imparfait, et préfère garder le silence plutôt que de dire quelque chose qui ne soit pas absolument définitif. Le vrai génie est si plein de son sujet qu'il se tait ou, ne sachant par où d'écouter, débuter, apercevant exorde après exorde, entrevoyant sa fin à une distance énorme. Quelquefois, il se lance dans son sujet, fait une faute, hésite, s'arrête, reste arrêté, et parce qu'il a été emporté par l'essor et la multitude de ses pensées, ses auditeurs raillent l'incapacité de son esprit. Cet homme se trouve à l'aise dans les grandes occasions qui confondent et abaissant les intelligences ordinaires. Cependant, l'influence du causeur par sa conversation est en général plus marquée que celle de l'orateur par ses discours. Celui-ci invariablement parle le mieux avec sa plume. De bons causeurs sont plus rares que de passables orateurs. Je connais beaucoup de ces derniers. des causeurs, 5 ou 6 seulement. Et la plupart nous forcent à maudire notre étoile, de ce que nous n'avons pas été jetés chez cette nation africaine que mentionne Dox. Sauvage, qui n'ayant pas de bouche, ne l'ouvrait naturellement jamais. D'ailleurs, certaines personnes que je connais, perdant la bouche, trouveraient moyen de bavarder encore, comme elles le font déjà par le nez. Note 16. Celui-là n'est pas réellement brave, qui craint de paraître ou d'être, quand il lui convient, un lâche. Chapitre, note 17. C'est folie d'affirmer, comme le font quelques personnes, que les lettres d'aucune nation et aucune époque aient jamais souffert du franc-parler des critiques. Quant à notre littérature, à nous, où la franchise est tout juste ce qu'il lui faut, nous nous trouvons dans une fondrière, comme dit Victor Hugo, d'où on ne peut se tirer par des périphrases, par des « quem ad modum » et des « verum inim vero ». Note 19. Quand nous considérerons moins les préjugés reçus et davantage les principes, moins les qualités et davantage les défauts, à l'inverse de ce que suggèrent certaines personnes, alors nous serons de meilleurs critiques que nous ne le sommes. Il faut que nous nous occupions moins des modèles que l'on propose et que nous étudions davantage nos capacités. Les éloges insensés que nous décernons à une œuvre accidentellement bonne viennent de notre intelligence imparfaite du mieux. Celui qui n'a jamais vu le soleil, dit Calderon, ne peut être blâmé s'il croit qu'aucune splendeur ne surpasse celle de la lune. Et celui qui n'a vu ni lune ni soleil ne peut être blâmé s'il s'étend sur l'éclat incomparable de l'étoile du matin. Or, c'est le devoir du critique de prendre un essor assez vigoureux pour voir le soleil, même quand l'orbe s'en trouve bien au-dessous de l'horizon ordinaire. Note 20. Defoe aurait mérité de rester immortel, même s'il n'avait pas écrit Robinson Crusoe. Et cependant, ses nombreux autres excellents écrits ont presque disparu à nos yeux dans l'éclat supérieur des aventures attribuées au marinier d'York. Quelle meilleure gloire l'auteur aurait-il pu désirer pour son récit que celle dont il jouit depuis si longtemps? Son livre est devenu un objet familier dans presque toutes les maisons de la chrétienté. Et cependant, jamais l'admiration universelle, n'a été accordée avec moins de connaissances et de discernement. Pas une personne sur 10, pas un sur 500, ne s'imagine le moins du monde en parcourant Robinson Crusoe qu'aucune parcelle de génie ni même de talent moyen a servi à le créer. On ne considère pas Robinson Crusoe comme une œuvre littéraire. Defoe ne distrait aucune des pensées de ses lecteurs. Robinson les a toutes. La puissance qui a fait le miracle est oubliée par l'effet du miracle même. Nous lisons et nous sommes emportés par l'intensité de notre intérêt. Nous fermons le livre et nous sommes absolument convaincus que nous aurions pu l'écrire nous-mêmes. C'est la magie décevante de la vraisemblance qui est cause de ces impressions. L'auteur de Crusoe a dû posséder, par-dessus toutes les autres, ce qu'on en appelait la faculté d'identification. Cet empire de la volonté sur la fantaisie, lui imposant de perdre son individualité pour en prendre une autre fictive. Cette faculté entraîne le pouvoir d'abstraction, et avec ses clés, nous pouvons pénétrer en partie le charme mystérieux qu'a si longtemps exercé le volume devant nous. Mais l'analyse de notre intérêt n'est pas complète de cette façon. Defoe doit beaucoup à son sujet même. L'idée d'un homme vivant absolument seul, quoique souvent entrevue auparavant, n'avait jamais été mise en œuvre d'une manière si parfaite. L'apparition fréquente de ce sujet dans les œuvres littéraires du temps prouvait l'étendue de son influence sur notre sympathie. Le fait d'avoir été laissé imparfait démontrait la difficulté qu'il y avait à le traiter. Le récit vrai des aventures de Selkirk en 1711, l'impression puissante qu'elles firent sur le public, inspirèrent à De Fouet le courage nécessaire à son entreprise et une confiance absolue dans le succès. Combien merveilleux a été le résultat!